présence, le grand entretien.
Et on reparle de l'affaire Vincent Lambert avec votre invitée ce matin, Isabelle.
Et oui, alors l'idée de cet entretien, c'est surtout d'éclairer ce qu'on a appelé l'affaire Vincent Lambert du regard et de la pratique d'une médecin qui intervient auprès de patients ayant le même handicap que Vincent Lambert. Et cette médecin, c'est vous, Claire Charmetant. Bonjour docteur.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes spécialisée en médecine physique et de réadaptation, c'est comme ça qu'on dit.
Oui,
hein.
Tout à fait.
Et vous intervenez dans un établissement qu'on appelle SSR pour soins de suite et de réadaptation, tout ça dans le Gers, on vous libérera juste à temps pour partir travailler. Alors docteur, le sujet est complexe, on va tâcher de l'aborder avec toute la mesure qu'il requiert. On a pris un peu de temps pour aborder l'affaire Vincent Lambert, justement pour laisser poser les choses. Faut-il le rappeler, hein, Vincent Lambert, c'est ce jeune homme en état dit végétatif, vous me corrigerez, végétatif à la suite d'un accident de voiture, c'était en 2008 et depuis plus de 10 ans, hein, un conflit médiatico-médico-judiciaire a lieu sur son cas et tout ça sur fond malheureusement de désaccords familiaux. Alors faut-il ou non arrêter les traitements? C'est ça l'enjeu. Et les derniers événements remontent au 20 mai, on s'en souvient, alors que l'arrêt des soins a débuté. Dans la soirée, revirement, la cour d'appel de Paris ordonne à l'État que soient repris les soins visant à maintenir en vie Vincent Lambert, et ceci afin de faire respecter les mesures provisoires demandées par le Comité international des droits des personnes. Et puis on l'a appris juste après, 31 mai, le gouvernement dépose un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel de Paris ordonnant la reprise des traitements. Il y a une audience prévue tout prochainement le 24 juin 2019. Voilà pour les faits. Alors vous, docteur Claire Charmetant, vous avez commis une tribune, vous l'avez co-signée, elle a été publiée dans Le Monde, c'était mi-mai. Elle s'intitule « Laisser mourir, faire mourir ou soigner ». Vous posez une question, mais vous prenez position contre l'arrêt des soins au titre que Vincent Lambert n'est pas mourant, mais dites-vous, en état de conscience altérée, chronique. Vous allez nous éclairer. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ça change tout?
Oui, alors c'est important de bien comprendre la terminologie de tous ces termes. Et en effet, en fait, le message vraiment, c'est que Vincent Lambert n'est pas en fin de vie. Il est en situation de handicap lourd et en état de conscience altéré qu'on appelle chronique, puisque ça fait plusieurs années qu'il est dans cet état-là, comme beaucoup de patients
comme lui
dont je m'occupe. Alors effectivement, dans la terminologie de tous ces termes, c'est important de préciser. Après l'état donc de coma, l'état de coma, on connaît, on sait que les patients sont endormis, la conscience est un vrai mystère, mais a priori ils ont peu de conscience. Après, il y a ce qu'on appelle les états de conscience altérés, états de conscience minimales. Et dans cela, on différencie certains. Alors là, ce que vous avez dit, il y a l'état végétatif. On entend aussi végétatif chronique, puisque ces patients, encore une fois, je me répète, peuvent être dans cet état depuis quelques années. Ce sont des patients chez qui on peut observer des mouvements, qui sont plutôt des mouvements réflexes, mais il y a peu de réponses aux stimulations et peu de communication, même pas de communication.
Ça, c'est l'état de Vincent Lambert.
État végétatif. Alors. Après, encore une fois, moi, je ne connais pas son dossier médical. On entend beaucoup de choses. On parle aussi des états post-relationnels. La limite est parfois floue. Nous, la différence entre les deux, c'est un diagnostic qui est clinique et puis paraclinique avec, on a beaucoup d'examens spécialisés. Et donc, cet état post-relationnel, le deuxième, c'est un état de conscience minimale également, mais qui se caractérise en fait avec des signes de conscience qui sont reproductibles. Alors, ils peuvent être fluctuants, hein, selon ces patients. Personnes fragiles, donc il y a des moments où ils sont fatigués, ils reproduisent moins les signes de conscience, mais qui ont des états avec des signes de communication, comme par exemple la poursuite visuelle, les pleurs ou les rires dans des situations appropriées.
D'ailleurs, il y a eu des vidéos le montrant même se réveiller, fermer les yeux, les fermer.
Voilà. Alors, dans l'état végétatif et l'état post-relationnel, ces patients sont en état d'ouverture des yeux la journée et de sommeil la nuit. Donc, ils ont des états d'éveil. Contrairement au coma, donc ils ont un cycle veille-sommeil qui est présent. Voilà, donc ça c'est bien important. Et une autre chose que je voulais spécifier, parce qu'on entend beaucoup de choses aussi, c'est vrai que l'état végétatif, le terme végétatif peut choquer, mais il faut savoir que dans notre jargon médical, le végétatif ça veut dire les fonctions vitales. Donc c'est un patient qui est dans un état médical avec les fonctions vitales qui fonctionnent. C'est pour ça qu'on dit état végétatif. Alors le terme n'est pas forcément toujours très...
Pas très heureux, parce qu'effectivement dans végétatif on entend... végétale. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ceux qui étaient les fervents à vouloir arrêter les soins le stipulaient. Alors, vous nous dites, ça change tout. Vincent Lambert n'est pas mourant. Il est en état de conscience altérée chronique. Vous nous avez donné les différents états de conscience altérés. Pour autant, si le patient n'est pas en fin de vie, comme ça semble être le cas, même s'il n'y a pas tout à fait toujours consensus, comment la question de l'arrêt des soins ou de l'alimentation, je ne sais pas si on doit dire soins ou alimentation, a pu se poser?
Alors, là, c'est toute la limite de la loi Claeys-Leonetti là, de 2016, la révision de la loi Leonetti qui considère le traitement, l'alimentation et l'hydratation artificielle, donc c'est-à-dire quand c'est donné par une sonde, comme un traitement, proprement dit. Et en fait, il faut savoir que tous ces patients, en général, ils sont, on va dire, tétraplégiques, ou enfin, en tout cas, ils ont un déficit moteur de leurs membres, qui fait qu'ils n'ont pas la fonction, la capacité motrice de pouvoir s'alimenter par voie orale, par la bouche. Et donc, ils ne peuvent pas amener tout simplement une cuillère à la bouche, un verre à la bouche. Et donc, c'est nous, les soignants, les médecins, qui leur apportons par ce système de sonde l'alimentation. Et ils n'ont parfois aussi pas la capacité motrice de déglutir. Donc, pour éviter les fausses routes, on leur donne par une autre voie que par la bouche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que leur corps fonctionne bien et leur digestion, ils s'hydratent dans leur corps de façon tout à fait normale. Donc ce n'est pas un acharnement thérapeutique et c'est là toute la limite de cette loi où on considère l'acharnement thérapeutique, l'alimentation et l'hydratation artificielle sont considérées comme un acharnement.
Donc c'est vraiment une malinterprétation de cette loi Claeys-Leonetti.
En tout cas pour ces patients-là, ces patients ne sont pas en fin de vie encore une fois.
Et il est bon de le rappeler et d'insister. Est-ce que vous pensez, docteur Charmettan, que cette situation, cet imbroglio autour de Vincent Lambert aurait pu être évité? Il a beaucoup été question à cause de cette affaire, à propos de cette affaire, du rôle de la personne de confiance. Est-ce que vous pouvez nous préciser son rôle et comment peut-être, s'il avait été plus clairement établi que Vincent Lambert ait envie ou non, dans une situation pareille, de vivre, ça aurait pu être plus clair?
Alors, il y a deux choses. Pour moi, bon, déjà, la personne de confiance, c'est encore un autre sujet, mais c'est un sujet aussi qui peut mener à beaucoup de débats, parce que, bien sûr, ce patient, par exemple, Vincent Lambert, a sa femme, enfin son épouse, qui l'avait dénommé, qui est la personne de confiance, mais il y a aussi toute la famille, tous les proches. Donc, certains de mes collègues prônent pour ce qui est une décision, comment dire, collégiale, avec tous ses proches. Ça, c'est encore un autre débat. Mais encore une fois...
Vous pensez que c'est pas la personne de confiance qui pourrait tout régler? La désignation d'une personne de confiance, c'est pas forcément là la résolution du problème.
Alors, de toute façon, la décision, elle se prend pas uniquement par la personne de confiance, elle se prend également avec les médecins. Déjà pour décharger la personne, parce que c'est quand même des sacrés, des sacrées décisions. Mais encore une fois, là, pour moi, il n'y a pas lieu de parler de personne de confiance, puisque ce patient n'est pas en
toujours
fin de vie.
Eh oui.
Donc après, le rôle de la relation avec la famille, avec la personne de confiance, est très très important pour nous, l'équipe médicale et les soignants, parce que on travaille main dans la main, on travaille avec la confiance, on se voit sur un long terme, donc il faut vraiment qu'on ait une bonne relation, mais là la question
ça ne se pose pas, toujours avec cette question de Vincent Lambert n'est pas en fin de vie. Docteur Claire Charmettan, je vous propose qu'on quitte un peu le cas Vincent Lambert et qu'on s'intéresse aux 1700 personnes en France qui sont hospitalisées, d'autres Vincent Lambert en réalité, elles sont hospitalisées dans des unités dédiées, les fameuses EVC EPR pour état végétatif chronique et état POSI relationnel. Ouais, c'est là que vous travaillez, vous aussi. Alors dites-nous, faites-nous découvrir de l'intérieur ces établissements. Quelle est la prise en charge adaptée à ces personnes?
Alors la prise en charge, la prise en charge, elle est très, très spécifique et vraiment adaptée à ces patients. Alors ces unités EVC-EPR, comme on les appelle, elles existent depuis peu de temps. En fait, elles existent depuis la création d'une circulaire en mai 2002, où l'État a mis en place ces unités parce que les autres services hospitaliers de court et de long séjour ou de moyen séjour ne sont pas adaptés à ces patients-là. Alors juste entre parenthèses, ce qui est important aussi de savoir, c'est que il y a à peu près 1700 patients dans cet état-là. Il y en a beaucoup qui vivent chez eux.
Et oui,
qui vivent dans leur famille. Malheureusement, il n'y a pas encore assez d'unités. Et puis il y a aussi des familles qui sont capables de porter entre guillemets ce poids, mais en même temps elles reçoivent beaucoup en s'occupant de cette personne, mais toute leur vie a changé depuis cet accident ou depuis cette...
C'est toujours suite à un accident?
Oui, ou alors c'est, en général, les principales causes, c'est soit un accident, un polytraumatisme, soit un gros accident vasculaire cérébral, soit encore ce qu'on appelle les anoxies cérébrales, c'est un état médical, une urgence qui a fait que le cerveau n'a mal été irrigué pendant quelque temps.
Et alors, voilà. vous me disiez que ces personnes, dans les établissements où vous intervenez, elles étaient tout de même rythmées, habillées, sorties.
Oui, tout à fait. C'est là où, bon, je pense que c'est vraiment bien de savoir comment ça se passe dans ces services. Il y a tout un projet de vie. Encore une fois, on parle de projet de vie pour le patient, qui est fait à partir de soins vraiment spécialisés. Donc, il y a les soins de base, qui sont les soins de toilette, les soins de change. Bon, ça, c'est comme dans tous les services hospitaliers. Mais aussi, effectivement, le fait d'habiller ces patients tous les jours. Voilà, ils sont habillés, ils sont mis au fauteuil, ils ont des stimulations. Et puis, il y a tous les soins spécialisés de médecine,
d'orthophonie.
Soins et de rééducation, tout à fait. Alors, il y a l'équipe des thérapeutes qui intervient. Alors, les orthophonistes, effectivement, par exemple, qui viennent pour stimuler le plus possible le retour de communication. Parce que ces patients-là, c'est comme tout le monde. Plus on est stimulé, plus on provoque de communication. Donc, une orthophoniste, par exemple, elle va essayer de nous aider, toute l'équipe et la famille aussi, à trouver, par exemple, un code de communication. Il y a des patients qui vont réussir à communiquer uniquement par l'ouverture des yeux et la fermeture.
Il y a une relation possible.
Voilà, alors pour les étapes aussi relationnelles, il y a une voilà, c'est des petites relations, il faut les saisir. Encore une fois, c'est fluctuant, ça dépend de leur état de fatigue. C'est fluctuant aussi par rapport à ceux qui sont présents, c'est-à-dire que parfois, nous, on est surpris de voir un patient avoir une relation ou alors même une expression que nous, on n'a jamais vue, mais qui avec sa famille. Donc, c'est là où nous, on travaille aussi avec les vidéos, etc., pour montrer le plus possible. Et après, dans les soins spécialisés, eh bien, il y a toute la... Voilà, les soins médicaux, il y a les ergothérapeutes qui vont faire avec des appareilleurs, des fauteuils adaptés, avec des sièges coques, etc., pour qu'ils soient le plus confortables possible.
Mais on parle évidemment pas vraiment de guérison dans ce type de situation. Du coup, docteur Charmestan, forcément, il y a une question du sens que ça a, tout ça, tout de même. On l'a beaucoup entendu, l'affaire Vincent Lambert a remué tout ça. Alors, au regard de la foi, nous, chrétiens, on peut se dire qu'il y a un mystère, mais vous, comme soignant, comment vous voyez ça?
Oui, moi je le vois aussi comme un mystère, que je sois chrétien ou pas. De toute façon, la vie est mystérieuse, la maladie est un mystère. Ça, c'est un éternel, une éternelle question. Après, nous, en tant que médecins, et je pense que tous mes collègues, en tout cas tous ceux au moins de ma spécialité et qui ont co-signé cette tribune, on le rappelle dans notre code de déontologie, dans le code de santé publique, vraiment, il est dit, le médecin n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort. Alors, quel que soit le type de pathologie, c'est notre ligne de mire.
Et alors justement, l'affaire Vincent Lambert, on y revient rapidement, elle a dû susciter des discussions dans les établissements, du côté des familles. Comment est-ce que ça a réagi?
Alors, étonnamment, il faut savoir que nous, ça n'arrive vraiment que très 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 rarement que des familles viennent nous voir pour nous dire que c'est tellement insupportable qu'elles supportent pas de voir leurs proches dans cet état-là. Ce qu'il faut, la question qui sort de tout ça, c'est y a-t-il des vies indignes d'être vécues? Voilà.
Y a-t-il des vies indignes d'être vécues? On va rester là-dessus. Et puis cette phrase de votre tribune, quelle société voulons-nous? Nous, signataires, médecins spécialisés dans la prise en charge des personnes handicapées, affirmons que c'est l'honneur de notre société que de continuer à prendre soin des plus vulnérables d'entre nous, fussent-ils en état de conscience altérée. Ça rejoint aussi la déclaration des évêques de France. Un grand merci, Claire Charmetant, d'être venue nous éclairer sur cette affaire. Vincent Lambert, merci à vous.